Raconte-moi une histoire. Vous l'avez prononcée, cette phrase, forcément, quand vous étiez enfant. Et le fait de l'avoir dite, c'est important. Parce que le plaisir, on va pas se mentir, il est moins dans l'histoire que dans le dire. Dans ce moment où le conteur vous donne toute son attention, vous savez, quand il vous regarde droit dans les yeux et qu'il vous en propose sa propre version. Il prend son temps, il met le ton, il insiste sur un caractère, sur un élément, sur un détail de l'histoire que vous connaissez déjà. On vous l'a raconté mille fois, mais quand il s'en empare, ça n'a plus rien à voir. Il y a d'autres bruits, d'autres images, parfois même de nouveaux personnages, parce que le conte, c'est quelque chose de vivant. Il y a cette vieille croyance qu'on m'a un jour rapportée, que les contes sont des esprits qui se nourrissent de notre parole. Quand on raconte une histoire, on a l'impression qu'on s'en souvient, mais en fait, c'est elle qui nous appelle. Ne croyez pas ceux qui prétendent qu'ils l'ont imaginée, ceux qui sont convaincus qu'ils ont juste envie de la raconter. Non, en fait, comme un oiseau invisible, le conte s'est posé sur leur épaule et leur réclame d'être dit. Il traverse leur corps, il s'incarne dans leur voix. Et s'ils sont plus vraiment eux-mêmes, c'est pour ça, raconter une histoire, c'est pas vraiment un art, c'est être possédé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ?
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invitée d'aujourd'hui raconte des histoires. Elle est comédienne, révélée par Fabrice Gobert il y a une douzaine d'années. Figure importante du cinéma de Cédric Clapiche, elle marque les esprits à coups d'apparitions mémorables aux côtés d'Alex Lutz, François Civil, Pierre Niney ou encore dans les séries La Flamme ou Totem. Elle est à l'affiche demain d'un film fantastique d'Arnaud Malherbe aux allures de conte, un village isolé, des disparitions suspectes, un climat de tension et un ogre. C'est le titre du film. Bonjour Anna Girardot.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je me suis demandé quelles histoires est-ce que vous aimez raconter, vous, dans la vie ?
Je suis une très mauvaise conteuse. Je raconte très très mal les histoires et je me perds en plus dans mes pensées. Donc vraiment, il vaut mieux que je suive une trame qui existe déjà.
Donc les vieux contes, justement. Avec quel conte est-ce que vous avez grandi, vous, quand vous étiez petite ?
Mon père me lisait beaucoup de contes quand j'étais petite et il avait ce livre que j'ai encore chez moi. Je ne sais même plus quel conte il y avait à l'intérieur, mais je me souviens juste de sa voix qui me contait des histoires sur lesquelles je m'endormais.
Une voix qui faisait peur, la voix d'Hippolyte Girardot ?
Ah non, elle est douce la voix d'Hippo.
Qu'est-ce qui vous faisait peur, vous, quand vous étiez petite ? Parce qu'il y a ça dans le conte quand même, Anna Girardot.
Je pense que c'était les pièces sombres, les pièces au bout du couloir, ce qu'il y avait derrière le placard, ce que je ne connaissais pas et qui laissait libre cours justement à mon imagination, qui ensuite en plus s'est nourrie de beaucoup de films d'horreur dont j'étais fan et dont j'allais au cinéma avec mon père pour les voir. Et j'ai créé comme ça dans ma tête un monde assez horrifique qui m'a joué des tours.
Vous savez, c'est beau quelque part que vous parliez de la voix de votre père tout de suite. Dans quelle mesure la voix, c'est quelque chose qui compte plus que tout pour vous ?
La voix, pour moi, c'est ce qui reste éternel, c'est ce qui reste toujours, c'est ce dont on se souvient le plus et ce qu'on veut, en tout cas, garder le plus longtemps près de nous. Moi, j'ai des personnes que j'ai perdues et dont j'ai encore des traces de leur voix et c'est très réconfortant de la mettre à son oreille parfois.
Des personnes qu'on a perdues ou des événements aussi. En préparant cette émission, vous avez parlé d'un enregistrement en particulier sur une vieille cassette audio. Il faut nous raconter.
Oui, il faut savoir que mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune. Donc j'ai aucune trace finalement de leur histoire, si ce n'est mon existence. Et un jour, je suis tombée comme ça sur des cassettes audio. Et ils parlaient de ma mère qui dansait. Et pour moi, c'était la trace de leur amour. Et j'ai gardé cette chanson et cette cassette très longtemps avec moi.
J'aimerais vous faire écouter une voix, moi. Une voix qui dit beaucoup de ce que vous venez de dire.
Je suis sûre que tu as beaucoup de peine, mais tu sais, j'en ai moi aussi. Je suis désolée. Au revoir, Pierre.
Ça, c'est une chance, parce que moi, avoir la voix de ma sœur, c'est quand même... C'est tellement présent, la voix, ça ramène tellement, je veux dire, à la personne physique, c'est quand même... assez étonnant. Je sais que souvent les gens me disent, je me souviens presque plus de sa voix. Or moi, je sais que j'aurai toujours sa voix, donc c'est vraiment quelque chose d'important.
Catherine Deneuve, à ce micro, il y a 3 ans, qui évoquait la voix de sa sœur Françoise d'Orléac, qu'elle avait voulu entendre dans un extrait de La peau douce de François Truffaut. En quoi Anna Girardot, une comédienne ou un comédien pour vous, c'est peut-être d'abord ça, une voix.
Oui, c'est vrai que la voix finalement, moi j'avais Françoise et Catherine là dans ma tête, j'arrivais à les voir juste en entendant leur voix.
Ça se travaille, une voix pour vous ?
Bien sûr, mais un acteur de théâtre doit complètement travailler sa voix.
Comment vous faites, vous ?
Je me souviens d'avoir appris à porter ma voix, d'avoir pris des cours de chant pour jouer Roméo et Juliette au théâtre. Mais j'adore chanter par exemple, mais je suis très mauvaise chanteuse, je place très mal ma voix. Mais j'aime bien la voix parler.
En l'occurrence, utiliser sa voix, c'est effectivement aussi porter des mots. Et je vous ai entendu parfois dire, Anna Girardeau, que les mots, ça vous effrayait un peu.
Oui.
Pourquoi ?
J'ai toujours eu peur, plus petite, de... Je faisais beaucoup de fautes d'orthographe, j'en fais encore, de mal manier le mot. J'étais une très mauvaise lectrice quand j'étais enfant et adolescente. Par contre, j'adorais l'image, j'adorais la musique et j'adorais les films.
Alors qu'est-ce qu'il faut pour qu'un rôle vous rassure ? Pas trop de mots, justement ?
Alors je commence un peu à me soigner. Je commence à aimer les mots, aimer les apprendre, aimer jouer avec. Et en fait, je suis de plus en plus à l'aise avec sur un plateau. J'ai notamment un répétiteur de texte avec qui je travaille pour que le mot, justement, ne devienne plus une menace, mais un accompagnant.
Et le silence, dans quelle mesure ça se travaille aussi, Anna Girardeau ?
Oui, je me souviens d'avoir travaillé avec un réalisateur japonais qui s'appelle Kohei Oguri sur un film sur le peintre Fujita. Et les mots au Japon, un mot a beaucoup de signification interne. Et il m'avait dit, justement, dans ma manière de donner mon dialogue, il m'avait dit... Fais attention, chaque mot veut dire quelque chose, veut dire beaucoup de pensées. Et il dit, il faut que tu parles beaucoup plus lentement, que tu laisses plus de silence entre les mots.
C'est intéressant, habiter un silence au cinéma, un silence de cinéma, ça tient à quoi pour l'actrice que vous êtes ? Pour ce film, par exemple, Ogre, où vous ne parlez pas tant que ça.
Non, c'est beaucoup de l'écoute. Beaucoup d'écoute et l'entente. Pour moi, le film Ogre, il y a deux histoires dans une histoire. Il y a celle de Chloé qui essaye de sauver son fils d'un traumatisme, d'un père qui a été très violent, et d'essayer de lui raconter une autre vie, quelque chose de nouveau, de mieux. Et en face, on a Jules, qui comprend très bien les angoisses et les problèmes de sa mère et ne se sent pas forcément protégé par ses mots, mais qui, lui, n'en a pas non plus pour exprimer ses angoisses auprès de sa mère. Et ses seules références, finalement, c'est ses contes, c'est ses mangas, c'est son imagination. Et les deux personnages vont devoir répondre à la même question. Face à un ogre, est-ce qu'on se laisse dévorer ?
Ah, vous avez la réponse, vous ?
Maintenant, je l'ai. Après avoir traversé leurs aventures, et j'ai répondu à mes propres questions.
Qu'est-ce qui fait la force pour vous, Anna Girardeau, d'une image de cinéma ? À quoi ça tient ?
À l'audio et au visuel. Pour moi, c'est un grand mariage, l'audio et le visuel au cinéma. Et c'est d'ailleurs pour ça que la salle de cinéma, je trouve, a toute sa place, notamment pour Ogre. Je pense que c'est un film tellement incroyable à voir en salle, parce que c'est une vraie expérience, autant sonore que la beauté du film, et en même temps l'émotion qu'il y a à l'intérieur. C'est une vraie expérience, c'est-à-dire qu'on s'installe dans la salle, la lumière s'éteint, et on rentre immédiatement dans cette atmosphère, grâce au son notamment.
Vous me donnez des pistes pour tout à l'heure, mais d'abord celle qui n'est pas sans force dans cette émission, vous la connaissez évidemment, c'est la culture.
La culture.
Et son actualité plus vigoureuse que jamais, que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 19 avril ?
Il me sourit, il me dit, t'occupe pas, donne-moi du nougat, t'occupe pas, donne-moi du nougat.
Bim Bam Bourges, premier des grands festivals estivaux. Le Printemps de Bourges inaugure aujourd'hui sa 46e édition. Alternant tête d'affiche francophone, découverte et création originale, la manifestation déploie près d'une centaine d'artistes dans 15 lieux de la ville. On pourra notamment y voir Clara Luciani, Juliette Armanet, les Dutronc, père et fils, mais aussi découvrir les propositions hybrides de Michel Houellebecq, qui lira des poèmes sur de la techno, Pomme en Céline Dion, ou encore les adieux à la scène de Brigitte Fontaine. On aime.
On fait un film, c'est la pluralité des regards qui m'intéresse.
La semaine se dévoile. La réalisatrice tunisienne Kauter Benania a été choisie pour présider le jury de la 61e semaine de la critique. Lors du prochain Festival de Cannes, autrice d'une dizaine de films, Kauter Benania a notamment signé L'homme qui a vendu sa peau, premier long métrage tunisien nommé à l'Oscar du meilleur film étranger. C'est elle qui remettra les prix de cette section parallèle consacrée au premier et deuxième film qui accompagnait les débuts, entre autres, de Wong Kar-wai, Léos Carax ou Alejandro González Iñárritu.
Mais j'adore l'abstrait.
L'art partout, tout le temps, gratuitement, la Fondation Art Explora lance aujourd'hui son application prolongement de sa plateforme digitale consacrée à la découverte de l'histoire de l'art. En partenariat avec la Sorbonne, l'application propose notamment de découvrir sur tablette ou mobile 11 parcours d'apprentissage ainsi qu'une bibliothèque de contenu réunissant plus de 1600 sons et vidéos de la Grèce antique jusqu'à la 59e Biennale de Venise qui ouvre dans 4 jours. On s'y initie à l'art dans tous ses états de manière ludique, décalée, gratuite, que c'est chic. Et enfin Pâques, tragique pour le classique. Trois disparitions ont endeuillé ce week-end le milieu de la musique après l'annonce du décès dimanche du pianiste roumain Radu Lupu. On a appris hier la mort de l'immense compositeur britannique Harrison Birtwistle, dont la Royal Philharmonic Society affirme que la musique a secoué la terre. Dans le même temps, c'est le pianiste américain Nicholas Angelish qui s'est éteint précocement hier à l'âge de 51 ans. Il était mondialement connu pour ses interprétations au piano de Beethoven, de Brahms et de Liszt. La comédienne Anna Girardot, invitée de Boomerang ce matin pour la sortie Demain de Ogre, un film de genre qui flirte avec le fantastique et qui est très convaincant sur le plan de l'image et de la mise en scène. Dans quelle mesure, lorsque vous choisissez un film, est-ce que vous êtes aussi sensible justement à sa dimension esthétique, sa mise en scène, sa cinématographie, son travail sur le son, on en parlait?
Bien sûr, c'est d'ailleurs la première question que je pose à la réalisatrice ou le réalisateur avec qui je vais travailler, c'est sa vision du cinéma, c'est ce qu'il a envie de raconter et comment il veut le raconter, avec qui de qui il s'entoure, parce que un film c'est une construction d'équipe, enfin c'est un travail d'équipe et c'est chacun qui apporte sa pierre à l'édifice, et donc de savoir avec qui on veut s'entourer et comment on veut fabriquer son film. Pour moi, c'est extrêmement important.
C'est intéressant parce que vous venez de réaliser un premier court-métrage. À quel moment, en tant que comédienne, Anna Girardot, est-ce qu'on ressent le besoin de passer derrière la caméra?
Je pense que ça faisait très longtemps que j'avais envie de le faire. Et
pourquoi ?
Je pense que c'est autant actrice, je dis toujours que c'est arrivé un petit peu tard, mais depuis que je suis vraiment enfant, j'ai une petite caméra et je réalise des films et j'aime la construction d'une histoire à travers justement l'image, et le montage me plaisait quand j'étais enfant. Et donc je pense que je n'osais absolument pas le dire à qui que ce soit, mais un jour quand même, à force d'être sur la chaise et de regarder tout le monde s'affairer à faire un film, on se dit, ah, si, quand même, il faut le faire.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que ce que vous décrivez, c'est vraiment l'action, la vie d'une comédienne, c'est peut-être essentiellement fait d'attente, non?
Oh oui. Mon père m'avait dit, tu veux faire ce métier? Très bien, alors arme-toi de patience.
Qu'est-ce qui se joue pour vous dans ces moments où vous attendez entre deux prises sur un plateau?
Évidemment, on est concentré sur justement la scène qu'on va jouer. Et puis à un moment donné, évidemment, on attend encore plus. Et puis c'est une demande d'énergie qui est terrible, parce que on doit être complètement présent, complètement dans l'instant, dans l'émotion. Et puis tout d'un coup, pour des raisons de changement d'axe, de lumière, etc., de son, peut-être qu'il y a un avion qui passe. Et on doit retenir tout ça et hop, le relâcher ensuite. C'est toujours un petit peu complexe. C'est un exercice très compliqué, mais bon.
Mais quand est-ce que vous avez découvert le plateau de cinéma pour la première fois? Vous, dont les parents, on le disait, sont tous les deux comédiens, Isabelle Otero et Hippolyte Girardot.
Eh bien justement, je pense que c'est à travers le son que j'ai découvert le plateau de cinéma, parce que j'accompagnais mes parents et il fallait surtout pas faire de bruit. Il fallait être le plus discret possible, il fallait être tout petit dans un petit coin. Et en général, j'allais vers l'ingénieur son qui me donnait un casque pour écouter les acteurs. Et puis quand on écoute au HF, finalement, on est au plus près de la voix de l'acteur. Et donc j'entendais mes parents parler comme ça, jouer. Et c'était plus une expérience assez réconfortante et sensorielle que j'avais.
Il paraît qu'ils voulaient pas que vous fassiez ce métier, vos parents.
Oui, oh, je pense qu'ils avaient peur pour moi.
C'est-à-dire que vous avez désobéi, Anna Girardot?
J'ai pas fait Sciences Po, pardon papa.
Dans quelle mesure est-ce qu'ils vous l'ont transmis quand même, cet amour du cinéma?
À travers les films, à travers cette vidéothèque gigantesque qu'ils avaient tous les deux, et leur amour du cinéma. Et donc, ils me l'ont partagé et j'ai toujours rêvé et vécu à travers ces images, ces héros, ces films.
Ils vous y emmenaient au cinéma aussi? Quel est votre premier souvenir de spectatrice dans une salle de cinéma?
Il est très clair, mon premier souvenir de spectatrice. Mon père m'avait emmenée à l'avant-première du Roi Lion, à un cinéma qui n'existe plus, à Place d'Italie. Et le Roi Lion, il faut savoir que ça commence quand même sur un soleil levant orange. Et j'ai pris pleine balle comme ça cette image magnifique, très colorée sur cet écran qui était un des plus grands, je crois, de France ou d'Europe, et accompagné de la musique de Disney, qui est quand même, c'était un spectacle, et c'est resté gravé. Je pense que je suis restée accrochée à ma chaise pendant ces une heure et demie de film, et j'ai toujours adoré la salle de cinéma depuis.
J'aimerais que vous nous lisiez un texte que vous avez écrit en décembre 2020. C'est une déclaration d'amour à la salle de cinéma, justement.
D'accord. Je me souviens de ces dimanches avec ma mère. où l'on décidait du film qu'on allait voir. Je me souviens du choix, souvent le mien, parfois le sien. Mais je me souviens surtout du débat pour le choisir, et qui voulait me faire plaisir, et moi qui acceptais de découvrir. Je me souviens du chemin pour arriver au cinéma, des discussions, des rires, de sa main douce et de ses manteaux chauds. Je me souviens de l'heure où il fallait arriver pour ne pas se confronter à une trop grande foule. Je me souviens regarder avec angoisse le nombre de sièges qu'il restait et la satisfaction d'avoir un ticket. Je me souviens du choix des places, au milieu du milieu. Je me souviens lui garder une place. Je me souviens qu'en s'asseyant, son parfum me rassurait, que je posais ma tête sur son épaule, dans ses cheveux et que je me sentais bien. Je me souviens nettoyer ses lunettes sans lesquelles elle ne verrait rien. Je me souviens commenter avec elle les bandes-annonces et pointer les films qu'on irait voir plus tard, avec une certaine excitation et une envie d'y être déjà. Je me souviens, et pour toujours, du moment où la lumière de cinéma s'éteignait et que le film commençait. Elle me prenait la main et me soufflait « Bon film !» Et je répondais « Bon film, maman !» Je m'en souviens parfaitement. Ces souvenirs font partie des plus heureux de mon enfance.
Ces salles de cinéma, Anna Girardot, vous en parlez comme d'une sorte de refuge, en fait.
Bien sûr, c'est très réconfortant, une salle de cinéma.
Mais de quoi s'agissait-il de se mettre à l'abri?
Ouh, bah, de tout. Vous n'avez pas écouté les informations.
Ce que vous nous dites, en fait, c'est qu'un film, pour qu'il prenne toute sa dimension, il doit être accompagné par l'expérience. L'expérience de la salle. Et pourtant, on le voit depuis les différents confinements, les salles peinent à retrouver un niveau de fréquentation équivalent à celui d'avant la pandémie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens y retournent et renouent avec cette habitude, avec ce rituel?
Pour moi, la jeune génération qui regarde des films aussi sur les plateformes, aussi sur leur ordinateur, je condamne absolument pas ça. Parce que finalement, je rencontre des jeunes de 20 ans qui ont vu 50 fois plus de films que moi à cette époque-là. Parce qu'ils ont eu un accès. Et finalement, ils s'éduquent. Ils éduquent leur œil, ils éduquent leur avis critique. Et ils se créent une vraie culture cinématographique. Et quelque part, ils vont comprendre par eux-mêmes à quel point, quand on respecte le cinéma, quand on l'aime, le voir en salle, c'est un privilège.
Il faudrait le rendre plus accessible alors, ce cinéma en salle.
Au niveau du prix?
Ah oui?
Ah bien sûr, ça je suis bien d'accord.
Parce qu'un monde sans cinéma, ça ressemblerait à quoi?
Un monde sans culture? Quelle horreur.
Un monde qui ferait peur?
Bien sûr.
Et vous pensez vraiment qu'on va se faire peur maintenant, Anna Girardot? Pas du tout.
Non.
On va se faire plaisir. Vous me connaissez. Michael Jackson, 1982. France Inter, Anna Girardot, Boomerang, évidemment.
Terre, Boomerang, Augustin Trapenard.
Les choses soient très claires, elle fait pas peur du tout, hein, je vous rassure. Pas bien grande, tout en fossette, regard chaperon, sourire petit pot de beurre. On lui donnerait le bon Dieu sans confession, avec sa grande veste de baroudeuse et son bandana. Dans la poche gauche, la comédienne Anna Girardeau, invitée de Boomerang pour Ogre, ce film dans lequel vous jouez une mère célibataire institutrice qui a tout quitté, avec son fils de 8 ans pour s'installer dans un village reculé dans le Morvan. C'est un personnage dont on sait assez peu de choses, en fait. Composer un personnage, ça passe par quoi, chez vous?
Eh bien, ça passe, encore une fois, par la voix. Une manière de parler, une manière de s'imposer. C'est un petit peu comme la manière de s'habiller ou de se comporter. Le costume, pour moi, m'intéresse beaucoup parce qu'il montre qui on a envie de montrer de soi. Des vêtements amples, finalement, cachent le corps. Et puis, il y a ceux qui exposent leur corps. La voix, c'est un petit peu pareil. Chloé, je voulais que ce soit quelqu'un qui se cache un petit peu de qui elle était.
Alors, comment on cache une voix?
On retient beaucoup de choses. On essaye de faire des points, de finir ses phrases, de ne pas les laisser un peu couler comme moi je peux faire. Voilà, ça se travaille comme ça. Et puis à un moment donné, oui, on prend une habitude, un pli. Et puis au moment de action, on rentre dans ce rythme. J'avais fait ça aussi dans le film Bonhomme de Marion Vernoux. Moi, j'aime bien la voix. Je pense que c'est un bon départ pour travailler un personnage.
Vous en parlez avec beaucoup de passion, Anna Girardeau, et avec beaucoup de technique aussi. Comment c'est né cette volonté de devenir comédienne?
C'est né à New York, beaucoup. Un cours de théâtre avec une professeure qui s'appelle Sheila Gray et qui m'a vraiment donné énormément de clés, qui m'a beaucoup poussée, qui m'a fait me dépasser. Et je pense que c'est ce que j'apprends tous les jours dans mon métier, c'est le dépassement de soi. C'est ça qui fait qu'on peut continuer à faire une carrière, finalement, en prenant du plaisir. C'est que chaque film est un pas en plus. Et Ogre, c'était ça. Il y avait des jours, il fallait vraiment faire des sauts dans le vide. Notamment avec mon partenaire de jeu, Giovanni Pucci.
Qui est un enfant.
Qui est un enfant. Incroyable. Tellement d'énergie. Lui, il avait envie de raconter une histoire aussi, de se faire peur.
Je suppose que cette excitation que vous décrivez, elle vient aussi du fait d'avoir vu d'autres actrices, d'autres rôles. À quoi est-ce que vous pensez immédiatement?
Immédiatement, Jennifer Lawrence dans ce film avec Bradley Cooper, dont j'ai oublié le nom.
Happiness Therapy.
Et je me souviens de Jennifer Lawrence qui pète un câble à un moment donné. Et je me suis dit, waouh, quelle liberté, quel plaisir elle a dû prendre. Il y a des jours comme ça où on ose des choses sur un plateau, on rentre chez soi, on se sent tellement bien parce qu'on est allé au-delà de qui on était avant d'arriver.
Vous parlez de libération, moi je vais vous faire entendre une comédienne que vous connaissez forcément. Si je vous dis Suzanne Sarandon dans Thelma et Louise, vous voyez évidemment quelle scène, quel moment. On y va.
What are you talking about? Let's keep going. What do you mean? Go! You sure? Yeah. Hit it.
Suzanne Sarandon au volant d'une voiture, Gina Davis à côté. C'est le final de Thelma et Louise. Elle s'apprête à se jeter dans un précipice pour échapper à la police. Vous ressentez quoi là, Anna Girardeau, face à ce dénouement, en écoutant cette musique? C'est à la spectatrice que je m'adresse.
Ah mais j'ai des frissons. Je la vois très bien. Je vois leur regard, je vois leur sourire. Je vois ce moment où, en tant que spectateur, on se dit « Mais non, on vous aime tellement. » Et en même temps, c'est la libération la plus totale. Je vois l'image, je l'ai en tête.
Qu'est-ce qu'elle a libéré chez vous, Suzanne Sarandon, justement?
Oh là là, pour moi, c'est ce qu'on appelle une femme rock'n'roll. C'est quelqu'un qui s'assume complètement dans toutes ses parts, féminine, masculine, qui ne demande pas du tout l'avis de personne pour être qui elle est, et qui est... no excuses.
Elle s'excuse pas.
Elle s'excuse pas. Et ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup. Je suis encore en recherche de ça. Mais j'aime beaucoup les actrices et les personnages comme ça.
Alors c'est intéressant parce que Thelma et Louise, c'est aussi un film ancré dans une certaine réalité sociale. Faire du cinéma, pour vous, Anna Girardeau, c'est aussi, d'une certaine façon, dire le monde, parler du réel.
Oui, même si... Évidemment, tous les réalisateurs et les réalisatrices avec qui j'ai tourné, il y a toujours ce moment où on lui dit « Tu es qui dans le film ? Tu es qui dans le casting ?» Et en général, ils répondent tous un petit peu de tout. Et je pense qu'en fait, au-delà de parler on parle du monde qui nous entoure, on parle de ce qu'on ressent. Et c'est ce qui font les meilleurs films finalement. C'est de réussir à vraiment parler de soi, même si c'est à travers d'autres personnages, un ogre peut-être, ou autre.
Ou la France ici désoubliée quand même, une France qui vit dans des villages désertés par les services publics, une France isolée, qui a peur, chez qui on sent de l'inquiétude, voire de la colère qui monte.
Complètement. Ce village, il est complètement abandonné, et ils ont l'impression d'être complètement... qu'ils vont repartir dans l'obscurité. Et ils ont besoin de ce personnage, de ce duo pour faire vivre le village. Ça, c'est quelque chose qui est très palpable dans le film et qui est très bien décrit, je trouve.
Sauf que pour clore cette émission, vous avez choisi de nous lire un texte, une chanson de Damien XVI. Cette chanson, vous l'associez à un moment très précis de votre histoire de citoyenne.
Oui, c'était en 2001. Quel âge j'avais ? J'ai 33 ans aujourd'hui. Et on était tous dévastés. Et mon père m'a emmenée à ma première manif à Bastille. Et c'était une manifestation incroyable parce qu'elle était déjà pacifique. Et en même temps, il y avait cette ferveur, il y avait cette solidarité, il y avait tout d'un coup une unité de personnes, d'humains, qui m'a finalement, après, touchée dans les films. C'est ces moments où tout d'un coup, on se retrouve, on s'écoute, on n'est plus individualiste, mais finalement, on est tous ensemble contre quelque chose qui nous semble mauvais pour notre futur, pour nous, pour ce qu'on ressent, pour ce qu'on veut dire, pour nos rêves. Et ça a été un choc, je me souviens, à l'époque. Et cette chanson de Damien XVI était sortie, mais je me souviens très bien du texte, je connaissais la chanson par cœur. Et j'y ai pensé l'autre jour en me disant, c'est incroyable comme finalement, tant d'années après, elle résonne encore. J'ai vu les larmes aux yeux, les nouvelles ce matin. 20% pour l'horreur, 20% pour la peur. Ivre d'inconscience, tous fils de France. Au pays des Lumières, amnésie suicidaire. Nous sommes la nation des droits de l'homme. Nous sommes la nation de la tolérance. Nous sommes la nation des Lumières. Nous sommes à l'heure de la résistance. Pour les rêves qu'on a faits et pour ceux qu'on fera, pour le point qu'on a levé, pour celui qu'on lèvera, pour un idéal, pour une utopie. Allons, marchons ensemble, enfants de la patrie. Fils de France, ça pour baisser la tête. Ah oui, ça t'aime bien les minutes de silence. Fils de France, c'était à peine hier, et déjà tu brandis le drapeau de l'ignorance. Fils de France, nous n'oublierons jamais que nous sommes, et nous serons les fils de la résistance. Fils de France, au royaume des aveugles, tu sais bien ce qu'on dit, les borgnes sont les rois. Il y a ces ombres derrière nous, il y a ces idées vendues, il y a les drapeaux qui flottent et ces hymnes dessus. Et puis il y a toi, mon frère, oui, toi qui n'y crois plus. Et puis il y a nos prières et nos causes perdues. Honte à notre pays, honte à notre patrie. Honte à nous, la jeunesse, honte à la tyrannie. Honte à notre pays, revoilà l'ennemi. Allons, marchons ensemble, enfants de la patrie. Nous sommes la nation des droits de l'homme, la nation de la tolérance, la nation des Lumières. Nous sommes à l'heure de la résistance. Nous sommes la nation des droits de l'homme, la nation de la différence, la nation des Lumières, à l'heure de la résistance.
Quel texte de Damien XVI. Merci Anna Girardot d'être venue faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que le nouveau film d'Arnaud Malherbe, Ogre, avec Giovanni Pucci et Samuel Jouy, sort demain. C'est un rendez-vous, chair de poule, avec vos peurs d'enfants les plus viscérales et des vrais partis pris de cinéma. C'est aussi important. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers et son Instant M. Juste après ça.
Non, me regarde pas dans les yeux. Je veux pas que tu vois que j'y vois que toi dans les deux. Que je tiens plus très droit. Moi sans toi j'ai l'air un peu louche. Mine de rien je tiens pas bien sûr.
Je tourne comme un passant dans ta ville.
Que c'est bon ce vertige du matin, Vertigo, Juliette Armanet avec Sébastien.